Ici, contre. Voici le sixième bulletin d'information de la BBC. Veuillez tout d'abord écouter quelques messages personnels. La fortune vient en dormant. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. De Marie-Thérèse à Marie-Louise, un ami viendra ce soir.
Le quartier général du commandement suprême des forces expéditionnaires alliées vient de publier le communiqué suivant. Sous le commandement du général Eisenhower, les forces navales alliées, avec le soutien de puissantes formations aériennes, ont commencé ce matin le débarquement des armées alliées sur les côtes nord de la France.
Ici, Londres. Ceci termine notre émission de 13h.
Bonjour, on est la classe première OL du lycée André Argouges. Aujourd'hui, on va vous parler de la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement à Grenoble et l'Isère. Vos animatrices aujourd'hui sont Amy et Océane. Et pour commencer, on va écouter des impressions des élèves enregistrées dans le musée de la Résistance.
Abdel, dis-nous, qu'est-ce qui t'a le plus marqué durant cette visite ?
Je pense que c'est le cinéma.
Camille, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette visite ?
Le déroulement de la libération.
Alors Cerise, qu'est-ce qui t'a marqué durant la visite ?
La maquette illuminée.
Shaima, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette visite ?
Dans cette visite, ce qui m'a marqué le plus, je crois, c'est le nombre de morts qu'il y a. C'est vraiment impressionnant.
Amy, qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans cette visite ?
Je pense que c'est les interviews des personnes qui étaient déportées dans les camps et qui racontent comment ça se passait pour les enfants. Tout ça, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué parce que je savais pas que c'était autant hard.
Allez, qu'est-ce qui t'a marqué durant la visite ?
La beauté des lieux. Franchement, j'aime beaucoup le musée, c'est très beau.
Héloïse Angel, dites-nous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette visite ?
Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est l'image des déportés.
Et moi, du coup, c'est les portes de la Gestapo, de voir tous les dessins, tous les calendriers, comment ils retransmettaient leur douleur sur les portes.
Le premier sujet est l'occupation de Vichy, fait par Lucas et Chris.
Alors, le 24 octobre 1940, la collaboration entre Hitler et le maréchal Pétain prend forme.
Français, j'ai rencontré jeudi dernier le chancelier du Reich. Cette rencontre a suscité des espérances et provoqué des inquiétudes. Je vous dois à ce sujet quelques explications. Une telle entrevue n'a été possible, 4 mois après la défaite de nos armes, que grâce à la dignité des Français devant l'épreuve, grâce à l'immense effort de régénération auquel ils se sont prêtés, grâce aussi à l'héroïsme de nos marins, à l'énergie de nos chefs coloniaux, au loyalisme de nos populations indigènes.
Donc là, nous avons écouté le discours du maréchal Pétain, et maintenant je vais vous parler de Vichy et son occupation. Donc cette collaboration prend forme pour un but politique entre la France et l'Allemagne. On voit aussi l'article Le Petit Dauphinois qui décrit Pétain comme un sage, un juste, et les Grenoblois l'accueillent comme leur sauveur. Il donne l'image d'un être supérieur et d'un sauveur alors qu'il ne fera qu'empirer la situation tout au long de cette guerre. Pendant notre visite du musée de la Résistance, on apprend pas à pas que le maréchal Pétain ne veut pas sauver l'honneur des Français. Il prend son rôle trop à la légère car il n'agit pas alors qu'il était décrit comme un sauveur par les Grenoblois. Pétain crée même une affiche qui prouve qu'il ne veut pas sauver l'honneur des Français. Sur cette affiche, il est écrit, je cite, « Votre famille sera heureuse en Allemagne, allez travailler là-bas ». En créant cette affiche, il nous fait comprendre que pour être heureux, il faut se soumettre aux Allemands au lieu de se battre pour notre liberté. En septembre 1944, plein de résistants ont été fusillés, comme malheureusement Jean Perrault. Mais pendant cette guerre, on retiendra qu'il y aura eu plein d'autres formes de sanctions prises, comme la déportation, le travail forcé et l'exécution. En conclusion, Hitler et Pétain collaboraient dans un but politique, économique et social pour tenter d'arrêter la guerre, alors que la sombre vérité de ce traité de Vichy est que le Reich voulait juste soumettre les Français pour dominer.
Donc maintenant, je vais vous parler de l'occupation qui s'est passée. Donc en 1940, la France, elle est séparée en deux parties, car elle perd la guerre la même année. Du sud-ouest en remontant vers le centre et tout le nord, la France est en zone occupée par les Allemands. L'autre moitié et le sud, c'est la France qui se situe en zone libre. Elle n'est pas occupée par les Allemands. Et entre ces deux zones se situe la ligne de démarcation qui montre la différence des deux zones. Donc la France possède une... Okay. Après novembre 1942, Grenoble se voit occupée par les Italiens, et ce jusqu'au 8 septembre 1943. Donc, comme j'ai dit, après novembre 1942, Grenoble est occupée par les Italiens. On y voit des militaires italiens envahir les rues de Grenoble. Cette occupation était moins violente qu'en zone occupée, mais elle restait violente. Les maquisards, eux, ils arrivaient à bien se cacher dans le Vercors, dans les montagnes, car les Italiens ne s'y approchaient peu. Et cette occupation, elle va entraîner un mouvement de résistance à Grenoble. Du 8 au 9 septembre 1943, les Allemands ils vont venir reprendre Grenoble aux Italiens pour transférer certaines personnes en zone occupée et en déporter certains dans les camps de concentration. Maintenant, je vais parler vite fait de l'usine Brun, ce qui s'est passé avec cette usine. Donc, durant la Seconde Guerre mondiale, la dirigeante Claire Daré-Touche, qui est la dirigeante de l'usine Brun, elle est très amie avec la femme du maréchal Pétain, mais on va apprendre qu'elle tombe dans la collaboration avec l'Allemagne. Brun va alors devenir la cible de la résistance. Un soir, pendant une nuit, un commando tente d'aller se ravitailler dans l'usine, mais il tombe nez à nez avec des gardes armés qui l'abattent. On apprendra que l'affaire de Claire Daré-Touche, elle sera placée du côté des collaborateurs allemands et cela va les pousser à quitter la France pour qu'elles partent en Suisse.
Maintenant, nous allons écouter l'appel du 18 juin.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Tout ce qui peut être réuni en fait d'éléments militaires français et de capacités françaises de production d'armement doit être organisé partout où il y en a. Moi, Général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se mettre en rapport avec moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre ! Dans l'honneur et dans l'indépendance.
Maintenant, nous allons écouter Zeynep, Cerise et MN qui vont nous parler des exclusions, répressions et des déportations.
Le 19 mars 1941, le maréchal Pétain est accueilli à Grenoble. Il collabore avec Hitler. Le 22 juin, il appelle dès le lendemain à stopper le combat. Le Parlement quitte Paris et s'installe à Vichy. Le régime de Vichy dure jusqu'en 1944. En automne 1945, les Allemands capitulent à Stalingrad suite à une contre-offensive soviétique. En 1940, la France est vaincue par l'Allemagne, mais plusieurs groupes de Français résistent notamment à Grenoble.
Pendant les déportations, 2840 personnes sont mortes, 11050 ne sont jamais revenues. Le 26 août 1942, le gouvernement de Vichy ordonne la rafale des Juifs étrangers à Grenoble. Près de 6600 personnes ont été arrêtées ce jour-là, puis déportées vers Auschwitz dans des wagons à bestiaux, dans des conditions inhumaines, par exemple la faim, la soif, l'absence d'hygiène.
Il y a aussi eu un jardin Pertot qui était un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait des placements et des ravitaillements pour les jeunes dans le mannequin. Il faisait aussi du nettoyage dans les administrations publiques, mais aussi de l'espionnage et du contre-espionnage. En 1945, le 27 janvier, les camps d'Auschwitz sont libérés, ce qui provoque la journée de souvenir des victimes et des héros de la déportation le 27 avril.
Nous allons maintenant diffuser quelques messages personnels, plus une chanson de résistance.
Ici Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. L'éléphant s'est cassé une défense. Nous répétons, l'éléphant s'est cassé une défense. Jeanne a faim. Grand-père mange nos bonbons. Il est temps de cueillir les tomates.
Radio Paris, mon, Radio Paris est allemand. Radio Paris, mon, Radio Paris, mon, Radio Paris est allemand.
Allô, allô.
Là, prenez le micro. Merci.
Est-ce que tu sais ce qu'on vient d'entendre là?
Ce qu'on vient d'entendre, c'est des messages envoyés par la radio de Londres, et c'est des messages codés.
Ok, et donc c'était destiné à qui ces messages?
Ces messages, ils étaient destinés à Grenoble.
Ils étaient destinés à tous les résistants de France. C'était des messages codés, donc par exemple les carottes sont cuites, Clément ressemble à son grand-père, tout ça. Ça voulait dire autre chose en fait. Ça voulait dire attention, on va attaquer tel endroit ou des choses comme ça.
Puis nous allons vous présenter le sujet de Vichy et la résistance et la restauration république par Jenna Ishaïma.
Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler de la résistance en France qui regroupe des réseaux clandestins luttant contre l'occupation nazie et le régime de Vichy, sabotage, renseignement et propagande, préparant la libération du pays soutenue par le Conseil national de la résistance en 1943. La résistance en Isère fut intense avec Grenoble comme centre stratégique et le maquis du Vercors en première ligne. Après de violents combats et une répression brutale, la région est libérée en août 1944. Mais Jenna, c'est qui Marie Rénoir?
Alors, Marie Rénoir était une enseignante et résistante française. Elle est née à Bastia en Corse le 28 juillet en 1897 et elle décède du coup... 30 janvier 1945. Marie Rénoir, elle était engagée dans la lutte contre l'occupation nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais dis-moi, Shaïma, elle a fait quoi, Marie Rénoir, avant la guerre?
Elle a fait des études brillantes. Elle obtient l'agrégation des lettres en 1921 et enseigne dans plusieurs établissements en France. En 1936, elle est nommée professeure au lycée Stendhal de Grenoble.
Et du coup, comment elle s'engage?
Dès 1940, elle s'engage activement dans la résistance malgré une santé fragile. Elle fonde le mouvement clandestin Vérité, qui fusionne ensuite avec Combat, l'un des plus grands réseaux résistants de la zone sud. Elle participe à la diffusion de journaux clandestins et à l'organisation de la lutte contre l'occupant. Qu'est-ce qui lui est arrivé pendant la guerre à cette personne, Jenna?
En 1942, en novembre, elle est arrêtée la première fois à Grenoble. Elle a été du coup relâchée en janvier 1945 pour des raisons de santé. Ensuite, en 1943, en mai, elle est arrêtée à Lyon par la Gestapo sous son pseudonyme Claire Grasset. En 1944, en février, elle est déportée au camp de Ravensbrück, où elle subit du coup des conditions de vie inhumaines. Et enfin, le 30 janvier 1945, elle meurt dans le camp. Elle est affaiblie par des mauvais traitements et de la sous-alimentation.
Comment on lui rend hommage à Grenoble?
Et du coup, à Grenoble, on a décoré à des titres posthumes de la Légion d'honneur et de la médaille de la résistante française. Plusieurs établissements et rues portent son nom, notamment le lycée Marie Rénoir à Villars-Bonneau et à une avenue à Grenoble. Du coup, pour conclure, Marie Raynois restera une figure inspirante du courage et du sacrifice pour sa liberté.
Le son suivant que nous allons présenter est les messages au maquis de la Haute-Savoie depuis Radio Londres.
C'est la chanson d'un accordéon que j'ai entendu un soir dans la rue. Ce beau soir d'été, je t'ai rencontré. Depuis, le bonheur chante dans mon cœur. Je ne me souviens pas bien des paroles du refrain.
Allô, allô, maquis de la Haute-Savoie, maquis de la Haute-Savoie, écoutez bien les consignes fraternelles que nous vous adressons en plein accord avec les autorités d'Amiens. Primo, la mobilité dans les maquis est un élément essentiel de la lutte. L'augmentation des effectifs armés est certes plus que jamais souhaitable, mais elle ne doit en aucun cas diminuer votre mobilité. Mobilité qui, en cas de nécessité, doit vous permettre de changer complètement de région. Deuxièmement, le reste des Allemands et de déclencher une insurrection et un combat général prématuré. Le but des Allemands est de vous accrocher pour vous détruire. La riposte consiste à savoir vous décrocher, à savoir, suivant les cas, éviter ou rompre le combat, à savoir vous disperser pour vous reformer aussitôt en.
Nous allons maintenant écouter Manel et HN qui vont nous parler du tournant en 43.
À l'automne 43, Grenoble bascule dans une occupation plus dure. Jusqu'en septembre, la ville était occupée par les Italiens. Leur présence était dure mais moins violente que celle des Allemands. Benito Mussolini était le dictateur de l'Italie, allié à Adolf Hitler durant la Seconde Guerre mondiale. Mussolini occupe Grenoble avec les troupes italiennes jusqu'en 1943. Jusqu'à leur capitulation, les Allemands veulent récupérer Grenoble pour contrer la résistance. Les troupes nazies ont ensuite pris le contrôle de Grenoble par des combats italiens contre allemands. La répression devient plus brutale avec la Gestapo, qui est la police de l'État nazi, et la milice française, qui est une organisation paramilitaire pour lutter contre les mouvements de la résistance.
Les arrestations, les tortures et les exécutions se multiplient le 25 novembre 1943, marque la Saint-Barthélemy à Grenoble. Ce jour-là, les nazis et les milices arrêtent de nombreux résistants qui sont ensuite torturés et déportés vers des camps de concentration qui visent à détruire la résistance française. Le musée de la résistance et de la déportation de l'Isère expose des objets, photos, témoignages et lettres illustrant la période de la Seconde Guerre mondiale. La collaboration avec les nazis était forte, avec la malice dirigée par Paul Touvier, ancien militant d'extrême droite. Des dénonciations ont lieu. L'entraînement de l'arrestation et la déportation des résistants. L'automne 1943 marque un grand tournant. La ville recevra une médaille de compagnon de la libération après la guerre.
C'était la chanson d'un accordéon entendu un soir dans la rue. Ce beau soir soir d'été, je t'ai rencontré. Depuis, le bonheur chante dans mon cœur. Je ne me souviens pas bien des paroles du refrain. Bien sûr, l'amour durait toujours. C'était plein de mots gentils, de mots que tu m'as redit. Chérie, je t'aime, est-ce que tu m'aimes? C'était la chanson d'un accordéon qu'on a entendu tous deux dans la rue. Pour nous c'est plus beau que tous les tangos. Le chant du bonheur, c'est pour nos deux cœurs. Elle n'est pas toujours bleue, des disputes d'amoureux viennent parfois troubler ma joie. Quand je vais te détester, je me remets à chanter cet air de fête que j'ai en tête.
Nous venons d'écouter Nina Berger, Accordéon, une chanson qui date de la fin de la guerre.